Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Baptiste Antoine.
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Demain, il sera reçu sous la coupole du Palais de l'Académie des Beaux-Arts, dans la section sculpture. Mais c'est au Petit Palais, à l'intérieur du Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris et dans son jardin, que Jean-Michel Autoniel déploie ses pièces colorées en perles de verre, rivières ou murs de briques colorées, lotus et colliers d'or, couronne de la nuit ou nœuds sauvages, quelques 70 œuvres qui tissent avec force reflets un monde féerique et enchanteur. L'exposition « Le théorème de Narcisse » de Jean-Michel Autoniel est à découvrir à Paris jusqu'au 2 janvier, au Petit Palais donc, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jean-Michel Autoniel.
Bonjour.
Si le directeur du Petit Palais, Christophe Leribaud, est venu vous trouver il y a quelques mois, en cette époque de sortie espérée du Covid, c'était parce qu'il voulait marquer un nouveau départ, une renaissance, un réenchantement après, le relatif endormissement culturel dû à l'épidémie. C'est donc une mission de réenchantement, une mission de magicien en quelque sorte qu'il vous a confié. Est-ce qu'un plasticien pour vous, c'est un magicien ?
Je crois qu'on a la chance de pouvoir être tous très différents en tant que plasticiens. Moi, cette question du réenchantement et du merveilleux, j'ai eu la chance de la vivre avec la station de métro au Palais-Royal il y a 20 ans. Et puis de peut-être en prendre vraiment conscience lorsque j'ai fait ma grande exposition au Centre Pompidou il y a 10 ans. Et là, de vraiment... me rendre compte qu'il y avait urgence. Il y avait urgence à peut-être redonner un peu d'espoir à un monde qui s'écroulait. Et j'ai toujours essayé de présenter des œuvres qui, même si elles viennent parfois d'un côté sombre, au moins qu'elles expriment la lumière. Oui.
Alors, le Petit Palais était donc votre nouvel écrin. Il a été construit, rappelons-le, pour l'exposition universelle de 1900 par l'architecte Charles Giraud. Alors, vous auriez pu dialoguer avec une œuvre à l'intérieur du Petit Palais, ou avec plusieurs œuvres, avec les salles, vous aviez le choix, puisque la collection est quand même plus que vaste, hein, puisqu'elle va de l'Antiquité à 1914, excusez du peu. Et vous avez choisi autre chose, vous avez choisi de dialoguer avec le bâtiment.
Oui, parce que quand Christophe Leribaud m'a proposé cette carte blanche d'investir la totalité du Petit Palais, ce qu'il n'avait jamais proposé à un artiste avant, je me suis dit, mais où est la Mona Lisa du Petit Palais? Où est le chef-d'œuvre? Avec quel chef-d'œuvre je vais pouvoir dialoguer? Alors évidemment, il y a des Courbets sublimes. Comme vous le dites, il y a des pièces grecques incroyables. Des choses Art Nouveau aussi très très belles. Mais je crois, et en discutant avec le conservateur et avec Juliette Singer, qui aussi est conservatrice de cette expo, on s'est mis d'accord pour se dire que c'est quand même l'architecture elle-même qui est le chef-d'œuvre du Petit Palais.
Alors comment vous l'avez appréhender ce bâtiment? Vous l'avez examiné dans tous les recoins? Vous avez beaucoup marché? Vous avez pris au contraire beaucoup de recul? Ou vous avez découvert les petits interstices du bâtiment?
C'est-à-dire que je me suis posé déjà la question de ce que c'était que ce bâtiment à l'époque où il avait été construit, puisqu'il a été construit pour l'exposition universelle en 1900, en même temps que la Tour Eiffel et que le Grand Palais. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il avait été construit comme une machine à rêve. C'était un lieu, à l'époque, qui avait été fait pour faire rêver les gens. Et ça m'a beaucoup intrigué. Donc, du coup, j'ai commencé à lire des textes de l'époque, savoir comment les gens se déplaçaient, les gens, pourquoi ils venaient là, qu'est-ce qu'ils venaient voir. Et je me suis rendu compte que la chose la plus belle et mystérieuse de ce bâtiment, c'était son cœur qui est habité par un jardin. Et donc, tout est parti du jardin. Et ce jardin a un peu irradié sur... toute l'architecture, jusqu'à l'extérieur, jusqu'aux marches, jusqu'au sous-sol. Et il y a tout un parcours comme ça où je prends par la main le spectateur dès la rue pour l'amener dans les jardins, puis dans cette grotte de Narcisse que j'ai créée.
C'est vrai, parce que quand on descend les Champs-Élysées, Jean-Michel Autoniel, et qu'on regarde sur la droite, eh bien, on aperçoit les marches de ce Petit Palais. Elles sont pas exactement comme d'habitude. On voit tout de suite une tache bleue, on voit cette rivière bleue, hein, c'est comme ça que vous avez intitulé votre œuvre, qui ressemble un peu à une cascade et qui invite comme ça les visiteurs à emprunter les marches de cet escalier monumental. Alors évidemment, quand on s'approche petit à petit, on voit effectivement à quoi ressemble cet escalier, de quoi il est fait. Donc ce sont des briques, il y en a un petit millier.
Oui, c'est ça. Il y a un petit peu plus que 1000
briques. Un petit peu plus que 1000. C'est du vert indien, c'est ça? Couleur aigle marine?
C'est du vert, oui, ce bleu turquoise, ce bleu de la Méditerranée, ce bleu qu'on trouve partout dans notre culture méditerranéenne et qui va de la Turquie à l'Égypte et qui est vraiment un bleu commun à plein de cultures et qui, moi, me plaît beaucoup. Et l'idée, c'était de faire une œuvre qui allait chercher le public, à la rencontre du public, parce que je pensais qu'en cette période post-Covid, il fallait descendre dans la rue en tant qu'artiste, aller vers le public et en même temps accompagner ce public dans cette montée des marches vers cette magnifique grille dorée qui est vraiment l'image du petit palais comme une grille qui serait une promesse d'un paradis ou d'un Éden caché.
Mais pourquoi le bleu? C'était en contraste avec l'or, justement, avec le jaune d'or des portes?
Oui, c'est-à-dire que le bleu et l'or sont des couleurs qui, depuis longtemps, fonctionnent ensemble. Et là, il y avait une sorte d'évidence et aussi cette idée de ramener l'image de l'eau qui est déjà présente dans le jardin, puisqu'il y a trois bassins qui sont magnifiques. Donc on va suivre des représentations de l'eau jusqu'à de l'eau réelle pour retrouver une autre métaphore de l'eau en bas.
Oui, parce que c'est bon, pour continuer le parcours du visiteur. Donc le visiteur arrive, donc montre évidemment son pass, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc il monte cet escalier, il suit le cours de la rivière, il arrive, il franchit les portes dorées et il se retrouve dans le hall. Alors pas besoin de prendre son billet, puisqu'on l'a pas encore dit, mais l'exposition elle est libre et gratuite. Et là, faut pas se tromper, il faut aller directement dans le jardin. C'est par le jardin qu'il faut rentrer dans cet enchantement, donc le jardin intérieur hein, qui se trouve derrière la verrière. Alors on entre et l'œil est tout de suite attiré par ces perles d'or qui sont accrochées comme ça, un peu comme des fruits dans des arbres, au milieu de la végétation. Alors, on pense forcément au jardin des Hespérides, Jean-Michel Letonniel. C'est de là que vient l'inspiration?
C'est une des inspirations. Moi, j'ai la chance d'avoir, dans mon enfance, beaucoup été en Andalousie. Donc d'avoir découvert ces jardins mauresques. Je dis ça parce que le jardin des Hespérides avait été placé à un moment donné sur la carte justement en Andalousie comme un lieu où ces pommes d'or qui étaient en fait contre les oranges enchantaient toute une génération.
Et rapporter les fruits d'or des Hespérides, c'est le onzième des 12 travaux d'Hercule, je crois.
Voilà. Et donc ça a été un travail d'Hercule d'ailleurs, cette exposition. Mais oui, c'est cette idée de rentrer dans un jardin comme ça où les œuvres dorées à la feuille d'or dialoguent vraiment avec l'architecture, puisque on se rend compte en levant la tête qu'il y a des guirlandes comme ça entre les poteaux qui sont suspendues depuis 1900. Il y a des très très belles sculptures qui nous dominent d'anges ailés qui elles-mêmes sont dorées à la feuille. Donc ce rapport de l'or était pour moi une évidence. De ramener cette matière et cette couleur pour vraiment enchanter l'architecture. Et c'est vraiment cette idée de rendre hommage à l'architecture du Petit Palais à travers ses œuvres et en même temps plonger le visiteur dans un monde un peu protégé, ce monde du jardin dans lequel on va se ressourcer, on va peut-être atteindre un état peut-être plus contemplatif voilà.
Et donc les œuvres dialoguent à la fois avec le jardin en lui-même, donc avec les plantes, avec les feuillages, avec les arbres, avec les bassins et avec l'architecture en dur du bâtiment.
Oui. C'est-à-dire que c'est un jardin qui est, bon, comme beaucoup de jardins, qui joue sur l'illusion. On a l'impression qu'il est très grand, mais en fin de compte, il a été construit sur des fausses perspectives. Et il est très, très bien planté avec des essences qui viennent de pays lointains, puisqu'il faut imaginer que les jardins, à l'époque, en 1900, étaient des lieux où on venait aussi découvrir des plantes au moment de l'exposition universelle. On découvrait des plantes parfois qu'on pouvait croire un peu vénéneuses ou qui allaient nous ensorceler, qui allaient nous empoisonner. Et donc il y avait une vraie recherche autour de ces plantes, un mélange en même temps de fascination esthétique et en même temps un mélange très scientifique. Donc ce jardin-là, j'ai vraiment voulu lui redonner cette magie et je crois que les gens prennent plaisir à se promener, à chercher les colliers. Et de ces colliers, ils voient des différentes perspectives, puisque les colliers sont des toutes petites œuvres accrochées dans ces arbres qui sont assez fragiles, parce que c'est des arbres d'essence qui viennent surtout d'Asie et d'Afrique. Donc c'est vraiment un exotisme comme ça qui nous est offert et on redécouvre, je dirais, cette merveille, parce qu'en même temps c'est un lieu où on peut s'asseoir, on peut même déjeuner, il y a un petit café.
Ouais, un petit café avec une terrasse. Hein,
oui, c'est un des endroits très très beaux de Paris, méconnu et que maintenant beaucoup de gens voient.
Alors, c'est pas la première fois, hein, Jean-Michel Letonniel, que vous travaillez sur les jardins. Vous avez travaillé sur le bosquet du Théâtre d'Eau du Château de Versailles en 2015. D'où vient comme ça votre intérêt, j'ose pas dire votre passion, mais peut-être aussi un petit peu votre passion pour les jardins?
Oui, c'est ma passion. C'est ce que, quand on me demande quel est votre hobby, je n'ai que ça à répondre. C'est-à-dire que c'est la quête des fleurs, leur histoire, l'histoire cachée, la symbolique des fleurs, la construction des jardins. Enfin, pour moi, c'est toujours un lieu qui est tellement fort, le jardin, parce que c'est une représentation du monde. C'est un endroit où on va se reconstruire en recréant un espace à son échelle ou à l'échelle peut-être plus grande comme à Versailles, puisqu'il y avait une volonté aussi politique dans les jardins de Versailles d'impressionner, de créer des ballets, de créer de la fête. Mais il y avait quand même une histoire toujours qui est racontée. Et moi, j'aime beaucoup que derrière des formes abstraites, il y ait aussi une histoire qui soit rencontrée au public.
Alors, l'histoire que vous racontez donc dans ce jardin intérieur du Petit Palais, elle a été créée comme ça ex nihilo. Les colliers donc qui se retrouvent dans les arbres ont été créés spécialement pour le Petit Palais.
Tout le jardin a été créé, toutes les œuvres qui sont dans le jardin ont été créées spécialement pour l'exposition. C'est une exposition qu'on a commencée il y a très peu de temps, en fin de compte, il y a 9 mois, donc pour 74 œuvres. Heureusement, certaines œuvres sont venues beaucoup d'Amérique du Sud, certaines du Japon, de Corée. Mais toutes les œuvres sont inédites en France. Elles n'ont jamais été.
Y compris le lotus doré.
Y compris le lotus qui venait de Corée, oui.
Voilà, donc il était normal, il était logique que ce lotus venu de Corée trouve sa place en plein cœur de Paris, dans ce jardin du Petit Palais.
Parfois, il y a des évidences comme ça, et surtout l'évidence est liée au plan d'eau qu'il y avait dans ces jardins. Donc j'ai posé sur ces plans d'eau des lotus qui se reflètent tel narcisse qui se regardant dans l'eau. Donc il y a la première image du reflet, elle est presque littérale. On va vraiment voir une sculpture se refléter dans l'eau avec la magie des jardins, c'est-à-dire quand il y a du vent, le reflet est presque scintillant, et quand au contraire il y a un calme d'huile, c'est un miroir dans lequel on peut justement se perdre.
Ouais, alors il y a le reflet du lieu, il y a le reflet des perles les unes dans les autres, puis il y a le reflet des visiteurs eux-mêmes. En fait, il y a des reflets partout. C'est un jeu de reflets que vous avez installé.
Oui,
dans le jardin.
Puis les visiteurs sont piégés dans leurs multiples reflets. C'est-à-dire qu'il y a certaines sculptures, notamment il y a 6 grands nœuds autoportés comme ça, qui sont très très grands, qui font presque 3 mètres de haut, dans lesquels on se voit à l'infini, mais aussi qui reflètent le monde autour de nous à l'infini. Et donc c'était l'idée d'un narcissisme ouvert, de refléter le monde autour de soi et de regarder un peu qu'est-ce qu'il y a à côté de notre propre reflet.
Oui, parce que Narcisse, il n'a pas forcément bonne presse aujourd'hui.
Non, mais moi, le narcisse que j'ai cherché, celui que j'ai invoqué, c'était peut-être celui du narcisse de l'enfance, en fin de compte. Ce narcisse de la première joie qu'on a à se voir dans un miroir, et cette joie qu'on essaye de transmettre aux gens autour de nous et qui nous construit. C'est là-dessus qu'on construit nos premiers dialogues avec les autres.
Alors justement, à propos des autres, intéressons-nous aux visiteurs, entre nature et sculpture, entre jeu de lumière et de reflets. Que voit-on, qu'est-ce qu'on ressent une fois sur place face à vos œuvres? Eh bien, Fanny Gelb a promené son micro parmi les visiteurs en tout genre, des amateurs d'art ou tout simplement des curieux qui ont partagé pendant quelques secondes avec elle leurs sensations et leurs émotions.
Il y a la surprise déjà de découvrir quelque chose d'insolite.
Je suis déjà venue hier. Quand j'ai vu ça dans le jardin, j'étais époustouflée, je trouve ça aérien. Et ce jeu de miroir. Et quand je suis descendue alors au sous-sol, là, j'ai tellement été estomaquée par la beauté de l'installation que j'ai eu les larmes aux yeux. Et donc j'ai dit, il faut que j'emmène mon petit-fils.
Ça fait des très beaux reflets, il met des miroirs un peu partout. Et c'est très joli.
Ça représente différentes formes. Après, on peut interpréter ça de façon complètement différente.
Ces petites boules, moi, qui me font penser aux électrons, qui sont la matière.
Toutes ces petites mardeaux avec ces perles qui se reflètent avec le soleil dans l'eau et tout, c'est très évocatrice de la légende de Narcisse. Je trouve que le monde est tellement cruel et violent qu'actuellement, ça fait énormément de bien de voir de belles œuvres.
Bah, écoutez, ça évoque quand même une certaine sensibilité, hein, surtout dans un jardin comme celui-ci.
L'alliance du classicisme du bâtiment et du chatoiement des œuvres, c'est magnifique, quoi, voilà.
Quand je vois les boules là, sur le parcours, là, sous les arcades, et qui se reflète dans les vitres, et nous on se reflète dedans et on se reflète par en bas, par en haut, on est démultipliés.
C'est un voyage dans une autre conception de l'architecture.
C'est vrai que ça nous emmène dans une dimension un peu de rêve et de féerie. Il y a toute la couleur, une dégradation de couleur très bien assortie. Mais surtout, quand il y a plusieurs de ces œuvres, comme l'accrochage qu'il y a sur un tapis de briques, et ça vous emmène ailleurs.
J'ai envoyé les photos à plein de gens qui vont venir voir.
Réaction, Jean-Michel Letoniel ?
Ce ne sont que des belles réactions, je trouve. C'est vrai que on ne sait plus qui est l'enfant dans ce qu'on entend. C'est ça qui me plaît, c'est qu'on sent vraiment ce retour à une espèce de joie, et c'est vraiment ce pourquoi on m'avait convié. Et là, je pense qu'on a réussi quelque chose. Et la dame à la fin qui dit je vais envoyer une image. C'est vrai que j'ai jamais eu autant d'images postées sur les réseaux.
Oui. Alors justement, ça c'est intéressant, parce que c'est vrai que quand on se balade dans le jardin, mais aussi à l'intérieur du bâtiment, hein, on voit énormément de gens prendre des photos.
Oui, c'est incroyable.
Et on se dit, les réseaux sociaux, mettre les photos sur son profil, c'est aussi une forme de narcissisme, c'est aussi une façon de dire, j'y étais.
Non, mais c'est vrai que de toute façon, la question du narcissisme, elle est complètement présente dans notre société aujourd'hui. Elle est même fondatrice de plein de jeunes qui ne connaîtront que ça, que leur image démultipliée dès l'âge de 6 ans jusqu'à ce qu'ils en aient marre, j'espère, un jour. Mais il y a cette présence de l'image qui est très, très importante. Mais sur les œuvres d'art, c'est pour moi, c'est personnellement, c'est vraiment la première fois où mes œuvres sont autant photographiées, autant postées, et ce qui explique peut-être le succès, le nombre de gens qui viennent et qui prennent un peu d'assaut le musée là en ce moment.
Ça change quelque chose justement dans votre façon de percevoir votre travail artistique, dans la vie VIE hein, que l'œuvre peut avoir même après, une fois l'exposition terminée.
Ce que ça change, c'est que moi je viens d'une génération où les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc je me suis construit sans ça, j'ai vu débarquer ça comme beaucoup de gens de ma génération, beaucoup tard dans sa vie. Donc je me suis pas construit avec ça, mais je me suis construit aussi dans une certaine solitude de l'artiste. Où l'artiste, quand on faisait une expo, quand j'ai fait une expo à l'Arc en 88, vous accrochez vos œuvres au mur et vous ne savez pas ce que le public en pense. Il n'y a aucun retour, on n'est pas comme des chanteurs ou comme des poètes qui ont un public et qui déclament devant. Au contraire, on est très seul et on n'a jamais de retour. Et là, avec les réseaux sociaux, c'est quand même assez troublant de voir un peu un retour comme ça direct où les gens se disent ce qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, mais d'un coup, ils se permettent. Et du coup, nous, en tant qu'artistes plasticiens, on en a un écho. Et ça, c'est très nouveau.
Mais ça pourrait vous inciter à prendre telle ou telle direction, à revenir en arrière ou à faire complètement autre chose ?
Non, mais ça me permet de voir que mes œuvres touchent les gens. Et ça me rassure dans cette quête de quel travail, et ce travail qu'on fait solitaire dans son atelier. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir un atelier avec des gens qui m'aident à travailler, donc je ne suis pas seul. Mais il y a quand même une grande... toutes ces œuvres viennent de dessins, de réflexions, de lectures. C'est un parcours intime. Et du coup, d'avoir un retour, je trouve ça... je trouve ça assez émouvant, oui, assez émouvant.
Avec la brume et le repli, nous qui vivons dans un reflet, corps ondulant de ce qui est, nous ne serons jamais légers. On pourrait qu'on ne voudrait pas, nous qui sommes pourtant sans poids, face à la première pierre posée, et nous vivons dans un reflet, corps ondulant de ce qui est. Dans le sillage d'un secret, nous évoluons dans un reflet. Nous nous rampons jusqu'aux frontières, aux portes qui ne s'ouvrent pas. En bouche, le goût d'une autre terre et de photos sous les gravats. Sur les collines, nous glissons, sur les toits où la tuile chante. Le soir, nous nous évanouissons et toute réalité s'absente, car nous vivons dans un reflet, corps ondulant de ce qui est, dans le sillage d'un secret que le jour ne compromet pas. Et comme l'ours rit de pierre, aux couleurs encore non fixées, nous restons indéterminés, pas encore mûrs pour la poussière.
Dominique A dans VMDN sur RFI avec Jean-Michel Autoniel pour l'exposition Le Théorème de Narcisse au Petit Palais à Paris jusqu'au 2 janvier prochain. Et le reflet nous amène évidemment à Narcisse, Jean-Michel Autoniel, et à son théorème. Alors, qui dit théorème dit énoncé. Quel est l'énoncé du théorème de Narcisse?
C'est une histoire qui est née de plein de rencontres. Et à un moment donné, j'ai eu envie... que cette histoire, elle soit un peu comme un opéra, qu'on l'on puisse se la réapproprier. Et du coup, ce personnage de Narcisse qui évoque le reflet par lui-même et a rendu l'histoire plus romanesque, en fait. Parce qu'au départ, c'est plutôt une histoire de mathématiques, tout ça.
Ben
c'est
oui.
Une histoire de rencontre. C'est une rencontre avec un mathématicien mexicain qui s'appelle Aubin Arroyo, qui vit à Mexico et qui, à 10 ans, suite à la publication justement d'une photo de mes œuvres sur les réseaux sociaux, m'a contacté en me disant « Écoutez, monsieur, vous faites exactement la même chose que moi. » Et je lui ai dit « Mais moi, je ne suis pas du tout mathématicien. » Et donc, on s'est rencontrés par curiosité réciproque. Il se trouve que c'est un chercheur important et qui depuis maintenant près de 15 ans a dévolué a fait cette théorie sur les reflets infinis et qu'il a appelé cette théorie la théorie des nœuds sauvages.
Voilà, et c'est vrai que là on se dit ben c'est effectivement comme vous, comme Jean-Michel Autoniel. Alors il est parti d'une déesse indienne, hein. Il y a aussi toute une dimension justement romanesque,
oui,
mythologique.
Parce que c'est en fin de compte c'est un vieil exercice que les mathématiciens s'amusent à faire entre eux, mais qui pour certains est un vrai sujet de recherche, dont lui d'ailleurs. Et donc ça part d'une histoire assez belle où une déesse indienne aurait perdu son collier et dont toutes les perles se seraient dispersées dans le ciel et auraient créé les étoiles. Et donc des mathématiciens calculent comment une perle se reflète dans l'autre et comment elle reflète en même temps toutes les autres perles. Et puis cette théorie s'est affinée, et ils ont fini par nouer ces perles entre elles, donc créer une sorte, pas un nœud comme un nœud de chaussure, mais plutôt un nœud comme un nœud borroméen ou un nœud infini, un nœud de Moebius comme ça, et qui serait ourlé de perles. Et des mathématiciens calculent ces reflets pour justement aller voir jusqu'où le calcul peut les porter. Donc c'est vraiment de la recherche pure.
Et lui, il en a tiré des images sur ordinateur, et on peut dire que ces images-là rappelle singulièrement votre travail, Jean-Michel Autoniel. Il y a dans les salles hein, du bas du petit palais un accrochage là comme ça entre face à face avec sur les murs ses œuvres à lui et à l'intérieur de l'espace, vos œuvres à vous. Comment vous avez établi justement ce dialogue? Vous avez travaillé tous les deux?
C'est-à-dire que oui, on a été tous les deux abasourdis par cette ressemblance comment des calculs mis en 3D peuvent ressembler à des sculptures. C'était quelque chose, surtout venant dans des pays complètement différents, lui ayant travaillé sans connaître mes œuvres et moi ayant travaillé évidemment sans connaître ses calculs. Donc on est arrivé un peu comme ça, comme deux personnes à deux bouts du monde différents, à la même image à la fin. Et puis après, on a commencé à jouer de ça. Et ça, c'est là où tout le jeu, où je me suis rendu compte que les mathématiciens étaient presque plus fous que les artistes, parce qu'ils ont une vraie logique dans laquelle ils se perdent et ils nous entraînent. Et ça a été une vraie découverte. Ça a été quelque chose d'assez assez jouissif de pouvoir échanger avec lui. Donc, il a pris des sculptures à moi, il m'en a donné les séquences mathématiques. Après, je suis allé au Mexique, j'ai exposé dans la salle des mathématiques avec ses théories au mur. Après, on a fait une grande expo qui a tourné en Amérique du Sud, qui allait jusqu'au Canada. Et à chaque fois, de ça naissaient des rencontres ou des projets. Et les derniers projets qui sont montrés ici, enfin les dernières œuvres qui sont montrées dans cette série d'œuvres qui est au sous-sol, donc de nœuds sauvages, de nœuds faits de perles miroitées, toutes ces sculptures qui ont pris quand même 10 ans de ma vie, 10 ans de travail qui est montré ici au Petit Palais, ont été faites selon ses calculs à lui. C'est-à-dire qu'à la fin, on a retourné où je suis devenu son miroir, où il est devenu mon Narcisse, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'ai pris sa théorie et je me suis appliqué à rester au plus près de ces calculs pour travailler avec mes verriers et donner en volume, je dirais, ces constructions mathématiques incroyables.
Mais avant de rencontrer Aubin Arroyo, est-ce qu'il y avait déjà une dimension mathématique dans votre travail, Jean-Michel Autonier?
Mathématique, peut-être pas, mais scientifique. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé comprendre comment marchaient les matériaux, comment les choses s'enchaînaient, comment le verre passait du solide pour redevenir liquide et redevenir solide. Enfin, toutes ces choses-là m'ont toujours intrigué, un peu comme un petit alchimiste, mais de façon vraiment intuitive. Et puis, ce que j'ai découvert avec lui, c'est quand même ce rapport cosmique. C'est-à-dire que les mathématiques nous emmènent dans un infini qui fait qu'une petite sculpture est une représentation du cosmos. Et ça m'a ouvert une vision de mon travail que je n'avais pas avant et du coup qui a rendu peut-être ce théorème de Narcisse plus ouvert qu'il n'aurait été si je ne l'avais pas rencontré.
Vous parliez des matériaux à l'instant, Jean-Michel Autonier. Comment est-ce que le verre est venu comme ça s'imposer dans votre travail après le soufre, je crois, et la cire?
Le verre est né d'une rencontre, d'un très beau voyage dans les îles éoliennes entre donc Naples et Palerme. Et j'ai découvert le verre natif des volcans, qui est l'obsidienne. Mais cette obsidienne, en fin de compte, avait disparu sous une lave de Pierre Ponce. Et la vulcanologue et archéologue qui m'avait reçu sur ces îles, qui s'appelait Mademoiselle Cavalier, c'était très romantique, elle m'a dit comme ça, peut-être qu'un jour, quelqu'un qui refondra la Pierre Ponce en tirera l'obsidienne. Et je suis parti avec un bloc de Pierre Ponce dans mes valises. J'ai appelé le CIRVA à Marseille, qui est un centre de recherche sur le verre. Je leur dis, voilà, j'ai un projet complètement fou qui serait de transformer la pierre ponce blanche légère en l'obsidienne noire, qui est ce verre des volcans tranchant, puisque c'est le même basalte, sauf que l'un s'expanse et l'autre se vitrifie. Et on a travaillé là-dessus pendant 2 ans avec le CIRVA et avec Saint-Gobain Recherche. Et pendant ces 2 années, je suis tombé amoureux des verriers parce que je les ai vus travailler. Je me suis dit, je veux me glisser dans ce geste, je veux être au plus près de ce souffle et je veux vraiment qu'on fasse des œuvres ensemble. Et ça m'a sorti de cette solitude du studio dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, du coup, j'ai commencé à travailler en équipe.
Et l'idée de la perle, donc de travailler sur cette forme ronde, sphérique, elle est la fille, justement, du verre?
Elle est née d'une complexité du matériau qui fait qu'on peut pas souffler des choses grandes en verre. On peut pas souffler des choses trop grandes. Donc l'idée du module est arrivée comme ça très vite pour des questions techniques. Et en même temps, moi je suis d'une génération où le corps est très important en art, où l'importance du corps, on a été tous marqués par ce thème-là dans les années, fin des années 80, début des années 90. Et donc les colliers étaient vraiment des choses à porter au départ. C'est des choses où au contraire, si on les portait, ils allaient nous écraser. Il y avait tout un rapport comme ça à ce collier de géants dont j'ai paré beaucoup d'arbres dans plusieurs jardins avant d'arriver au petit palais.
D'où l'idée évidemment des nœuds. Les briques, c'est moins évident peut-être.
Alors les briques, c'est un autre voyage dans un pays que j'ai découvert grâce au verre, qui est l'Inde. Et ça, c'est vraiment une rencontre avec une culture, avec une matière qui est la même mais en même temps différente, parce que beaucoup plus archaïque, soufflée comme il y a 2000 ans, qui a ses impuretés en même temps, cette beauté, de l'accident, puisque les pigments sont des pigments naturels, ils sont jamais les mêmes. Donc vous mettez, comme vous le disiez tout à l'heure, plus de 1000 bleus les uns à côté des autres, ils sont tous légèrement différents et ça donne une vibration. Et ça, c'est la beauté du défaut. Et ça, c'est ce que j'aime.
Alors les briques, les visiteurs peuvent même s'asseoir dessus. Hein. Ils peuvent pénétrer dans la grotte de Narcisse que l'on trouve donc au sous-sol du petit palais. Ils peuvent s'asseoir comme ça à l'intérieur.
Oui, parce que c'était un projet, ce projet de grotte. J'avais envie de me dire qu'il fallait qu'on retrouve un endroit pour que la parole soit plus libre. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus fort qu'une œuvre d'art qui permettrait ça aujourd'hui, qui nous permettrait de nous abstraire du monde? Et donc j'ai créé cette igloo de briques qui ne sont pas en verre, mais qui sont en métal, dans lequel on serait, c'est une vision utopique. Hein. Mon idée, ça serait de le faire peut-être en grand, en immense, un jour dans une ville, et de permettre une agora dans laquelle on pourrait encore s'exprimer.
De la Reine de la Nuit, évidemment, la Reine de la Nuit de la flûte enchantée de Mozart, interprétée ici par Edith Gruberova dans VMDN sur RFI. Vous avez évidemment tous vite reconnu cet air, Jean-Michel Otoniel, et si on l'a choisi pour cette émission, c'est pour évoquer avec vous la couronne de la nuit que vous avez accrochée au-dessus de l'escalier nord du Petit Palais. C'est l'œuvre, en fait, charnière, hein, c'est l'œuvre qui permet de passer du jardin au sous-sol du Petit Palais. Elle se trouve donc à peu près au milieu du parcours. Pourquoi cette œuvre-ci et pourquoi à cet endroit-là?
Je crois que dans le mythe de Narcisse, il y a quand même ce rite de passage qui est toujours important. Et c'est vrai que cette grande montée d'escalier comme ça, surplombée par cette coupole, était restée vierge pendant près de 100 ans, puisque le dernier grand décor avait été fait par Maurice Denis, je crois, en 1922, je crois, quelque chose comme ça. Et il n'y avait pas eu de... Cette coupole n'avait jamais été peinte. Et donc, quand je me suis promené, justement, avec Christophe Loribaud dans le bâtiment, j'ai aperçu un petit trou en haut de cette coupole. Et je me suis dit, là, il y avait quelque chose de suspendu. Et donc, on est monté dans les combles, on a vu qu'on pouvait effectivement suspendre quelque chose. Et là est apparue une œuvre que j'avais dans mes cartons, dans mes réserves depuis maintenant près de plus de 10 ans, qui est cette couronne de la nuit que j'avais fait au départ pour une forêt, où on se promenait dans la forêt la nuit dans le nord de la Hollande. Et on trouvait cette couronne, comme ça, comme un objet abandonné, surréaliste, gigantesque, avec des pangloques. C'est un peu comme une couronne d'impératrice russe, vous voyez, c'est pas une couronne, c'est pas un diadème.
Ah non.
C'est vraiment une grande couronne très voluptueuse, comme ça. Et donc, on a essayé de la mettre en place, on l'a positionnée là, et c'est vrai que tout de suite, elle a articulé l'exposition, elle a permis, je dirais, ce basculement dans la nuit souterraine, où est la grotte de Narcisse et toutes ses œuvres qui sont sont suspendues au-dessus de ce grand lac bleu dans l'obscurité. Et donc ça a été un moment très magique, je dirais. C'est le moment, c'est la seule œuvre qui n'avait pas été faite pour le lieu ou qui correspondait pas forcément à la même périodicité des œuvres. Elle était plus ancienne. Et elle a ramené, et c'est pour ça que je trouve c'est très très bien que vous mettiez l'opéra, parce qu'elle a ramené ce côté justement théâtral de ce lieu, ce lieu dans lequel voilà, il se passait des choses et il se passe encore des choses. Et c'est un lieu, comme je disais au début, c'est une machine à rêve, le petit palais. Et là, cette couronne vient nous montrer justement ça, que c'est un lieu où tout est permis, en fin de compte.
À propos de rêve, Jean-Michel Letonniel, demain sera un grand jour pour vous, puisque vous serez reçu à l'Académie des Beaux-Arts, dans la section sculpture. C'était un rêve ?
Pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout un... C'était pas un rêve, parce que pour moi, quand j'étais jeune artiste, et quand j'ai commencé à exposer, l'Académie n'était pas un lieu que je regardais. C'était un lieu qui me semblait un peu endormi, où je savais même pas trop ce qui s'y passait, en fin de compte. C'était pas un lieu, forcément, où ma génération d'artistes, en tous les cas, avait envie d'aller. Et il y a très peu de temps, en fin de compte, il y a 3 ans, Adrien Goetz, Fabrice Hibert, Jean-Marc Bustamante, qui sont la nouvelle génération d'académiciens portée par Laurent Petit-Girard, qui est notre perpétuel, sont venus me voir en me disant, voilà, on a besoin de 109 pour essayer de peut-être que l'académie soit vraiment en écho avec le monde aujourd'hui. Et j'ai beaucoup hésité, je me suis présenté vraiment à la dernière minute. Et j'ai eu l'honneur et la chance d'être élu. Et depuis 3 ans, on travaille vraiment fortement avec ces académiciens qui sont toutes générations confondues, très très dynamiques, plein d'idées. Et ça m'a fait très plaisir de rencontrer des artistes d'autres domaines, puisqu'il y a aussi bien des architectes, des peintres, que des graveurs, des compositeurs de musique contemporaine, et échanger sur ce que c'est que la création et qu'est-ce qu'on va faire ensemble, et notamment aider beaucoup d'artistes. On a créé pendant le Covid une bourse qui nous a permis d'aider plein d'artistes qui avaient été touchés par le Covid ou qui ne pouvaient plus exposer ou qui étaient malades. On a donné pour la première fois cette année un prix de sculpture à une femme, ce qui n'avait jamais eu lieu dans l'histoire de l'Académie, ce qui est quand même incroyable. Barbara Chaise-Ribou, qui va avoir une très très belle expo à la Fondation Giacometti bientôt. Et puis là, on travaille vraiment en ce moment sur un grand programme de résidence d'artistes qui va aider des artistes de toute génération avec des bourses et qui sera en place vers 2022-2023. Mais on est en pleine réflexion là-dessus pour justement offrir des lieux, réfléchir qu'est-ce que c'est qu'une résidence d'artistes aujourd'hui. Donc c'est vraiment passionnant, voilà.
Bon, alors c'est l'ancien ministre Jack Lang qui vous remettra, je crois, votre épée d'académicien demain. Vous pouvez nous la décrire, cette épée ?
Alors c'est une épée que j'ai fait avec Johan Creton, qui est sculpteur, comme moi, et qui a créé un pommeau en bronze qui reprend l'idée du nœud borroméen et ourlé de perles, comme ça, avec un... Donc qui est très costaud, quelque chose de très rassurant, solide, et qui est par contre armé d'une lame en obsidienne.
Alors on retrouve la fameuse obsidienne.
Ce premier verre qui m'a ému et avec lequel j'ai travaillé, et qui est un verre qui vient de la nuit des temps, puisqu'il était utilisé par les Incas pour faire des couteaux sacrificiels, pour faire des miroirs dans lesquels on pouvait voir son âme. Qu'il a inspiré beaucoup de surréalistes. Donc c'est vraiment un matériau assez magique, mais en même temps qui est un peu une oxymore, parce que c'est en même temps une lame, mais en même temps elle est fragile, elle peut se casser. Et c'est surtout, et avant tout, grâce à Johan Creton, une sculpture. Et je voulais pas d'une arme, je voulais que ça soit quelque chose d'importable, que je ne pourrais jamais porter, mais juste admirer.
Alors où est-ce que vous allez la mettre alors, cette épée ?
Je vais la mettre dans mon atelier et elle célébrera cette amitié qui me lie avec Johan depuis maintenant plein d'années et qui fait qu'on a fait notre première œuvre ensemble. Voilà.
Alors, vous ne porterez pas l'épée, en revanche, vous allez porter l'habit.
Oui, je vais porter l'habit et je me suis posé la question de ce que c'était qu'un habit d'académicien et comment justement, à travers ce symbole de l'habit, ramener la modernité au sein de l'académie. Et donc j'ai demandé à Kim Jones de chez Dior s'il serait intéressé par revisiter ce costume ce qui a été fait. Il est rentré dans le jeu et dans cette collaboration que j'ai eue avec lui, j'ai même moi-même dessiné les broderies. Je crois qu'aucun académicien n'avait dessiné ses propres broderies avant. Mais elle est... Donc c'est un vrai... statement, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que c'est l'idée d'incarner cette volonté de la modernité et de la jeunesse à travers le habit lui-même. Chaque fois, je le porterai sous la coupole, même si je ne dis rien, je manifesterai cette envie de nouveauté et de jeunesse.
À quoi ça ressemble, Jean-Michel Autoniel, une séance à l'Académie des Beaux-Arts aujourd'hui?
Eh ben, ce sont des grandes discussions sur des grands sujets, souvent... parce que l'Académie est consultée pour répondre à des grands sujets qui sont, je ne sais pas moi, là sur l'esthétique des éoliennes, par exemple, dans le paysage, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. Donc on reçoit pendant des mois et des mois ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et on se laisse imprégner de ces positions, et après on délibère pour savoir, en tant qu'Académie des Beaux-Arts, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur un sujet comme ça.
C'est-à-dire que c'est un rôle esthétique, mais c'est aussi un rôle politique, Jean-Michel Autoniel.
C'est-à-dire que c'est un rôle, pour l'instant, je ne sais pas, parce que ça fait trois ans et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de voir, je dirais, la réalité de nos propos, comment elle était appliquée ou pas. Mais l'Académie a quand même un rôle de conseil auprès du président de la République, bien que l'Académie est complètement autonome. Elle n'est pas liée du tout ni au ministère de la Culture. C'est vraiment, je dirais, une association d'artistes qui date depuis la nuit des temps aussi.
Oui, votre ambition, vous le disiez avec Fabrice Hibert et d'autres, c'était donc justement d'apporter une plus grande modernité au sein de cette Académie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'époque inspire l'art. Quel est le regard que vous portez, Jean-Michel Autoniel, sur notre époque, précisément? Parce que s'il s'agissait, pour revenir au début de l'émission, de réenchanter notre période, ça veut dire que notre époque, elle est terrible quand les artistes n'y sont pas.
Je pense que les artistes sont là. Les artistes, ils ont besoin d'aide. Donc c'est pour ça que je me dis que j'ai quelque chose à transmettre grâce à l'Académie dans ce sens-là. Et l'époque, je suis pas naïf, évidemment. En proposant un monde merveilleux, je ne suis pas dans mon monde perdu. Au contraire, si j'apporte du merveilleux, c'est parce que pour moi, c'est presque un acte politique, justement, d'essayer de réenchanter le monde, de dire voilà. Écoutez, le monde s'écroule, on le voit, aussi bien sur toutes les questions climatiques, sociales, il y a une vraie crise. Et est-ce que l'art ne peut pas être un moment qui va nous permettre peut-être de reprendre pied dans ce monde-là et de se retrouver soi-même, de rentrer dans un état peut-être plus... de s'élever, en fin de compte, de prendre de la distance face au monde et pour... mieux y revenir, pour essayer de le changer, pour essayer de... Donc moi, je suis assez optimiste dans le pouvoir de l'art sur le monde. Je pense que la littérature, le cinéma, la musique, tout art est un moment qui nous permet de se retrouver. Et donc, j'espère, grâce à cette exposition, en tous les cas, que les gens qui viendront se sentiront un peu dans une bulle le temps de cette exposition, mais pour mieux comprendre ou pour mieux approcher notre monde.
Merci beaucoup Jean-Michel Autoniel. Cette exposition s'appelle donc Le Théorème de Narcisse, entrée libre et gratuite. C'est donc au Petit Palais jusqu'au 2 janvier. Le Petit Palais qui propose aussi en ce moment une exposition très différente, qui rend hommage à un maître de la peinture russe qui est considéré dans son pays comme l'artiste le plus important du XIXe siècle et qui est pourtant méconnu à l'étranger. Cet artiste, il s'appelle Ilia Répine. Il s'agit ici de la première rétrospective française consacrée à ce peintre, témoin privilégié de son époque et de ses bouleversements. Reportage de notre ancien correspondant à Moscou, désormais à Paris, Étienne Bouche.
Des hommes en haillons, le visage buriné, traînent un bateau à voile vers une rive de la Volga. Le tableau est célèbre. Sa présentation à l'Académie des Beaux-Arts en 1873 suscite la controverse, mais elle forge la réputation de Répine. Le peintre n'a pas encore 30 ans et dévoile déjà un sens admirable du cadrage. C'est ensuite en France qu'il poursuit sa formation. Il séjourne à Paris, Bougival et à Veules-les-Roses en Normandie. Pourtant, son œuvre est méconnue dans l'Hexagone. Christophe Leribaud vient d'être nommé à la tête du musée d'Orsay. L'exposition Répine est la dernière qu'il présente au Petit Palais.
Le Petit Palais a pris un petit peu comme credo, si je puis dire, la redécouverte des grands artistes du XIXe siècle, un peu oubliés en France parce qu'ils étaient européens et qu'on est un petit peu centré sur nos gloires nationales. Et Répine est vraiment le plus grand artiste russe du XIXe siècle. Nos amis des musées russes ont vraiment accepté de prêter les plus grands chefs-d'œuvre, des tableaux absolument iconiques qui sont reproduits partout en Russie, qui sont dans tous les livres de classe. Enfin, on apprend la littérature, l'histoire à travers les œuvres de Répine. Il était tout à fait glorifié de son vivant et totalement oublié parce qu'en fait, il n'y a pas d'œuvre importante de Répine en dehors de Russie, ce qui explique qu'il soit si méconnu.
Les œuvres présentées au Petit Palais viennent principalement de trois musées. L'Aeténum de Helsinki, le musée russe de Saint-Pétersbourg, mais surtout de la galerie Tretiakov de Moscou qui a accordé des prêts exceptionnels. Ces dernières années, l'institution moscovite a sensiblement accru sa coopération avec les musées étrangers. Ilia Répine est un grand portraitiste. Il peint non seulement les membres de sa famille, mais aussi les grandes personnalités de l'époque, dont la plus célèbre, Tolstoï. Des portraits qui restituent le foisonnement artistique et intellectuel.
Peut-être le plus émouvant, c'est ce portrait de Modeste Moussorgski qu'il est allé retrouver dans l'hôpital où il était, ce qu'on dirait maintenant, dans une cure de désintoxication. Tellement il était alcoolique et torturé. Il a les yeux un peu hagards, les cheveux qui vont dans toutes les directions. Il est dans une robe de chambre typiquement russe. Et il a un regard très étonnant. Il ne regarde pas le spectateur, je puis dire. Mais c'est un tableau extraordinairement touchant qui, en tout cas, me parle beaucoup et je suis tellement heureux qu'il puisse être vu à Paris.
Répine est un représentant tardif des ambulants, un mouvement qui entend se démarquer des sujets académiques et introduire dans la peinture réalisme et préoccupations sociales. Dans la Russie tsariste, ce sont la littérature et l'art qui témoignent de la condition du peuple. Répine, lui, peint aussi bien le tsar Alexandre III qu'un bagnard de retour de déportation. Son œuvre restitue les différents visages d'une Russie entre deux siècles. Stéphanie Cantarouti, commissaire de l'exposition.
Ce qui est intéressant avec Répine, c'est qu'il va avoir plus de 60 ans d'activité. Donc il va voir le passage au pouvoir de plusieurs tsars, mais également deux révolutions. Donc évidemment, le contexte historique, politique et social de la Russie va beaucoup évoluer. Depuis l'abolition du servage jusqu'à la révolution de 1917, Répine est vraiment un observateur très aigu de la vie de son temps. S'il ne prend pas forcément position ni pour le tsar, ni contre tous ces agitateurs politiques qui luttent justement contre le pouvoir. En tout cas, il a à cœur de représenter des images fortes de tous ces événements.
La fin de l'exposition réserve des surprises même aux plus connaisseurs, avec notamment un portrait peu connu de Kerensky, le chef du gouvernement provisoire en 1917. La toute dernière œuvre est une autre rareté, une représentation du Golgotha conservée aux États-Unis à l'université de Princeton.
Reportage d'Étienne Bouche pour VMDN. Cette exposition Ilia Répine est donc à voir au Petit Palais à Paris jusqu'au 23 janvier 2022. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve demain pour parler bande dessinée et cinéma avec le dessinateur Jean-Claude Mézières pour son artbook intitulé L'art de Mézières, publié chez Dargaud. Jean-Claude Mézières, qui est notamment avec Pierre Christin, l'un des pères de Valérian et Laureline, adapté au cinéma, notamment avec son ami Luc Besson. Il a d'ailleurs aussi travaillé avec Luc Besson pour les décors de son film Le Cinquième Élément. On parlera donc BD et cinéma demain avec lui. Restez avec nous, merci de votre fidélité, à demain, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
RFI, la sélection du mois.